Nicolas de Lorgeril, on a évoqué avec vous pendant ces deux premières parties l'association Cœur d'Occitanie, ses actions, ses ambitions également. La troisième partie, traditionnellement, de ce Radio Bar qui est consacrée un peu plus à l'invité lui-même en tant que personne. Alors, vous vous appelez de Lorgeril, habituellement en français de Lorgeril, ça veut dire qu'on a un certain nom de noblesse. Vous avez, selon ce qu'on m'a dit, et vous allez le confirmer, je pense, derrière vous une lignée, je ne sais combien de génération sur Penautier, puisque c'est de là que tout est parti en quelque sorte. Et donc, d'abord, est-ce que qu'en est-il exactement un coup d'œil rapide sur votre arbre généalogique, Nicolas de Lorgeril.
Merci. Alors, ce ne sont pas des questions très fréquentes, mais je réponds bien volontiers. Le 2 dont vous parlez, ce qu'on appelle la particule, signifie simplement l'origine.
Oui, le 2.
Voilà, donc ça veut dire que cette famille vient de tel village. Voilà. Effectivement, ma famille est du côté de ma grand-mère. Ma grand-mère était née, donc, Paul de Penautier, donc de ce village tout près de Carcassonne. Et effectivement, avec une histoire intéressante, puisque Bernard de Penautier, au début du XVIIe siècle, donc, a construit le château de Penautier en 1620, déjà avec une idée de cœur d'Occitanie, puisque il était à cette époque-là le trésorier des États de cette très grande province du Languedoc, qui partait de Marmande jusqu'au Rhône en englobant une partie de l'Auvergne, donc très grande. Les provinces à cette époque-là avaient un pouvoir et une autonomie beaucoup plus grande que les régions d'aujourd'hui. Elles battaient monnaie, elles levaient les lois, elles édictaient des lois et elles levaient l'impôt. Et le trésorier des États, c'était à la fois le ministre des Finances et le banquier central. Et il a construit Penautier, pas du tout comme lieu de résidence personnelle, mais comme lieu de sa mission, à mi-distance entre les deux capitales de la province.
Un outil de travail, finalement.
Un outil de travail, voilà. Donc voilà d'où je viens. Bien évidemment, ça ne donne aucun droit. En revanche, ça donne une certaine obligation d'être... ça oblige, entre guillemets, à essayer d'être le maillon de la chaîne et que les 400 ans que nous avons célébrés il n'y a pas très longtemps, au mois de juin dernier, eh bien sûr, ne s'arrête pas demain matin. Nous essayons de transmettre et de poursuivre.
Oui, mais on peut se poser la question à une époque où beaucoup de gens, paraît-il, essaient d'en savoir plus sur leurs ancêtres, s'intéressent à la généalogie. Vous, pour vous, c'est tout tracé, c'est clair, c'est combien de 10 générations?
C'est un peu plus, je crois,
même,
que je suis
même un peu plus.
La 14e, je
14e.
Crois.
14e. Alors, quel sentiment, en tant qu'homme, hein, psychiquement, psychologiquement, quel est... Le ressenti, justement, que ça peut apporter par rapport à beaucoup de gens, finalement, qui ignorent qui sont leurs ancêtres. Est-ce que ça... Vous parliez de « oblige ». Est-ce que ça oblige à quelque chose?
Alors, je crois que, vous le disiez, de plus en plus de gens s'intéressent à leur généalogie ou à l'histoire de leur territoire. Je vois, il y a une... association sur l'histoire et le patrimoine de Penautier qui est extrêmement active et c'est formidable parce que finalement pour beaucoup de gens c'est une partie de leur identité. Hein, on est bien sûr libre de notre passé mais enfin on est quand même aussi marqué par notre histoire. En tant qu'homme, qu'est-ce que oui, je ne vous cacherai pas qu'à la fois ça oblige au sens où on n'a pas envie d'être le dernier maillon de la chaîne, mais bien un maillon qui transmet. C'est assez humain, je pense. Et puis, ça fait prendre conscience aussi que, justement, l'histoire d'une famille correspond, enfin, est très liée à l'histoire de son territoire. Et c'est vrai que moi, je me sens très enraciné ici et que c'est quelque chose qui devient une identité, oui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez l'impression que ça plonge des racines plus profondément.
Ben, sans doute.
Et alors, un point de vocabulaire, Nicolas de Lorgeril. Vous avez dit penotier. Or, il me semble que la plupart des gens qui habitent ce village disent penotier.
Ah, vous avez raison, et on va surtout pas ouvrir de guerre de religion sur le sujet, mais la famille disait penotier, puisque c'était son nom. Et en fait, normalement, il faudrait dire penotier, puisqu'il y a deux N, et qu'un E devant deux N, ça porte un accent, et que surtout au 19e siècle, ça s'écrivait P et accent aigu, mais bon, de fait, c'est pas comme ça qu'on dit localement, mais pour ma famille, je dis quand même comme ça.
Voilà, donc il n'est pas ridicule de dire penotier aujourd'hui.
Non, du tout.
Bon, monsieur de Lorgeril, vous êtes également, alors professionnellement, vous avez pas mal d'activités, vous avez été d'ailleurs, paraît-il, magistrat à la Cour régionale des comptes, c'est exact ?
C'est exact, oui. En fait, j'ai... D'abord, on me connaît sur ce territoire.
Vous vous destiniez à ça ?
Alors, je rappelle juste, donc effectivement, moi j'ai une vie pénotiéroise et on me connaît sur ce territoire, donc pour nos activités viticoles, hein, où nous avons développé donc une maison de vin, la maison Lorgeril. C'est ma femme qui la dirige, et en ayant donc plusieurs domaines, une activité de négoce et des activités d'accueil œno-touristique. Mais j'ai effectivement eu une vie professionnelle parallèle, aussi un peu parce qu'on investissait beaucoup et qu'il valait mieux apporter de l'argent qu'en prendre.
C'était un choix tactique.
Voilà. Et donc, j'ai eu trois étapes dans cette vie professionnelle. Une étape où j'ai dirigé des filiales de groupes agroalimentaires. C'était assez proche de ce qu'on faisait en développant notre activité de vin. Une période où, effectivement, j'ai servi l'État et où j'ai effectivement été comme premier poste dans le public. Donc à la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, comme magistrat en effet. Puis j'ai rejoint l'Office national des forêts et le Crédit foncier de France, OSEO, qui était donc l'ancêtre de BPI France. Voilà, ça c'est ma partie publique. Et puis ensuite, nous avons créé ensuite une petite structure qui accompagne les PME dans leur financement, qui s'appelle ETI Finance et qui est à Paris.
Oui, voilà. Et on va conclure là-dessus, vous l'avez évoqué, donc aujourd'hui à Penotier ou Penotier, vous avez un domaine viticole, vous en avez plusieurs, mais j'imagine que la base, le siège, c'est celui de Penotier.
Oui.
Paraît-il, enfin, alors, la viticulture du Languedoc, c'est une vaste histoire avec beaucoup de rebondissements, mais il y a quand même des bons aspects. Un rapport, paraît-il, faisait ressortir récemment que, par exemple, l'export a très bien fonctionné l'année précédente.
Alors, oui.
Vous exportez aussi, j'imagine.
Nous exportons à 60% et en une phrase, puisque ce n'est pas le sujet de cette émission, mais oui, nous sommes très optimistes sur les atouts de la viticulture qui s'est adaptée à un monde qui est effectivement complètement ouvert. Aujourd'hui, le marché du vin est devenu un marché mondial. Nous avons la chance, en Languedoc, de pouvoir produire des grands rouges. Nous avons la chance de pouvoir remarquablement réussir sur la mode, entre guillemets, du rosé. On peut faire sans doute la même chose sur les blancs. Et donc, oui, nous sommes optimistes, même si, bien sûr, c'est un métier très difficile, très lourd, dangereux, avec beaucoup de défis, les sujets environnementaux, les sujets climatiques, les sujets de la concurrence mondiale. C'est très difficile, mais à long terme, on sait qu'on fait des grands vins dans cette région et que ce sera effectivement de plus en plus une grande destination œnologique.
Et la confiance règne à ce niveau-là.
Oui.
Les rosés, paraît-il, on va conclure là-dessus, on le vend en poupe, notamment aux US, enfin chez les Américains.
Vous avez raison. Et partout dans le monde, ça devient le champagne de l'après-midi, hein, c'est-à-dire le produit festif des rencontres joyeuses. Alors effectivement, plutôt à l'apéro ou dans l'après-midi qu'en pleine nuit, mais pourquoi pas. Et oui, c'est en train de devenir, nos voisins provençaux, hein, sont en train de voir une explosion de leur activité dont nous pouvons bénéficier pour partie. Donc c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, mais le Languedoc a bien suivi la Provence à ce niveau-là.
Absolument.
Voilà, donc savoir qu'aux US, aujourd'hui, on boit beaucoup de rosé languedocien.
En Australie, aujourd'hui, toute la consommation de rosé est une consommation de rosé. Ils appellent ça French rosé, hein, parce que ce sont des rosés très clairs que, curieusement, ils semblent ne pas savoir faire.
Ah oui, bon, on finit sur cette excellente nouvelle du rosé de languedocien devenu international.
Absolument.
Merci Nicolas Delorgeril pour être venu nous parler de d'économie essentiellement et de cette association Cœur d'Occitanie. Le prochain invité, ou les prochains invités, il y en aura deux d'ailleurs la prochaine fois, ce seront le président et le directeur de l'Office de tourisme du Grand Narbonne Côte du Midi, à savoir Bertrand Malquier et Serge Wabian. Un petit peu plus tard, nous recevrons également alors le maire de Lézignan-Corbières, on parlait de Lézignan tout à l'heure, la présidente du département Hélène Sandranier, et puis plein d'autres noms un petit peu plus tard. En tout cas, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Je rappelle que si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur notre site internet www.grandsudfm.com. Merci à vous et à la semaine prochaine.